Bon matin, Église de Sentier. J'espère que vous allez bien là où vous êtes ce matin. J'espère que vous passez un bon temps, que vous avez eu un bon temps de louange. Je veux remercier l'équipe de louange pour tout le bon travail qu'ils font à chaque semaine. C'est un gros travail de mettre ensemble les différents musiciens. Puis je veux les remercier. Je sais qu'habituellement, quand on a l'habitude d'être ensemble, on prend l'habitude d'applaudir nos musiciens pour le bon temps de louange qui nous ont donné ce matin, qui nous ont permis d'adorer notre grand Dieu. Mais j'aimerais ça que là où on est, on puisse applaudir puis remercier l'équipe de louanges. Vraiment, c'est super. On est content pour ça. Quelques annonces. Tout d'abord, peut-être que vous avez vu ça passer la semaine passée. On a une nouvelle zone enfant sur notre site Internet et c'est vraiment super. Le matériel qui est déposé là, à chaque semaine, on a du matériel pour vos enfants. Donc, présentement, si vous le voulez, pendant la prédication, vos enfants peuvent écouter une vidéo avec une histoire pour les enfants. Il y a du matériel pour réfléchir sur les vérités bibliques qu'ils vont voir avec eux. Il y a des activités, toutes sortes de choses vraiment simples et vraiment intéressantes. Donc, on vous invite à aller là, sur la zone enfant sur notre site Internet. On vous envoie le lien pour grandir ensemble et aussi sur notre page Facebook. Et on vous invite à le partager pour que le plus d'enfants possible puissent en profiter. En fait, pour que le plus de familles possible puissent en profiter. Aussi, on vous rappelle, on veut vous remercier, Église de Sentier, pour votre générosité, parce que vous continuez à donner fidèlement à l'Église. C'est sûr que les circonstances ont changé. C'est certain qu'on n'est pas présent physiquement, mais on continue à être l'Église ensemble. On continue à prendre soin les uns des autres. On continue à avoir toutes sortes de besoins à l'Église. Donc, on vous remercie pour votre générosité envers l'Église. Et autant que cela est possible pour vous, on vous encourage à continuer de donner généreusement pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur ici à Gatineau et partout dans la francophonie. Donc, ce matin, on continue notre série « Jésus meilleur que tout ». Et quel privilège de pouvoir s'arrêter sur ce thème, n'est-ce pas? « Jésus meilleur que tout ». Et peut-être que pour toi, tu es un chrétien depuis longtemps et tu connais Jésus, tu as fait profession de foi, donc tu as mis ta confiance en Jésus. Et tu te dis, Jésus meilleur que tout, c'est l'évidence de la foi chrétienne. Est-ce que j'ai besoin de ça? C'est quelque chose, c'est peut-être la première chose que j'ai su quand je suis devenu chrétien, en termes d'information, que Jésus était meilleur que tout, puis c'est pour ça que je lui ai donné ma confiance. Et honnêtement, c'est vraiment une bénédiction de pouvoir dire cela ce matin, que Jésus est notre sauveur, qu'on est son enfant. Mais c'est vraiment intéressant parce que autant, comment on pourrait dire ça, autant que cette information pourrait être une des premières informations qu'on reçoit quand on devient un enfant de Dieu, autant que cette information-là, on en a besoin pour toute notre vie. Et c'est ce qu'on veut voir dans cette série-là. Peut-être que tu as des doutes. Peut-être que tu as des craintes. Peut-être que tu as toutes sortes de questionnements par rapport à Jésus. Peut-être qu'en ce moment, tu souffres beaucoup et tu te poses des questions par rapport à ta foi. Eh bien, ce qu'on veut voir ensemble, c'est que dans toutes ces circonstances-là, Jésus est meilleur que tout. Sache que cette lettre a été écrite pour rassurer des gens, pour rassurer des chrétiens que Jésus est effectivement toujours pertinent et toujours le meilleur, même dans les circonstances difficiles. Alors que les chrétiens de l'époque pouvaient vivre de la persécution, pouvaient vivre toutes sortes de difficultés à cause de leur foi, eh bien, l'auteur amène cette lettre et leur dit « Oui, Jésus est meilleur que tout ». Alors que des gens qui n'étaient pas encore des chrétiens regardaient les chrétiens et se posaient des questions par rapport à la foi. Ils se disaient « Est-ce que ça vaut vraiment la peine de suivre ce Jésus? » L'auteur aux Hébreux va dire « Oui, Jésus est meilleur que tout ». Alors, quelle bénédiction de pouvoir regarder ça ensemble ce matin. Et dernièrement, j'étais dans l'auto, et probablement que si j'étais dans l'auto, c'était simplement pour aller chercher de la nourriture, parce que pour quelle autre raison est-ce qu'on sort ces jours-ci? Même que je me suis donné le défi de ne pas mettre d'essence dans la voiture au mois d'avril. C'est pas vraiment un défi difficile à relever. Le mois est quasiment fini, puis je pense qu'on vient de dépasser la moitié de l'essence. Donc, disons qu'on ne prend pas beaucoup la voiture. Mais j'étais dans la voiture il y a quelques semaines, et puis j'écoutais la radio. Et à ce moment-là, il y avait des gars qui parlaient ensemble de la COVID-19, du coronavirus. Et puis, ils parlaient des projections. Combien de temps que ça peut durer? Combien de morts qu'il pourrait avoir au Canada? Ils parlaient de l'Ontario, du Québec. Combien d'hospitalisations? Ils parlaient des différentes vagues qu'il pourrait avoir. Et puis là, moi, j'écoutais ça, puis j'étais comme, OK, ouais, c'est vraiment stressant, non? Puis là, j'étais comme, je me disais, puis on a de l'information depuis le début, et puis depuis le début, c'est assez clair que ça peut durer un certain temps, qu'on veut, on veut aider le système de santé en essayant de ralentir la contamination. Puis on comprenait tout ça, puis on prend notre part là-dedans. Et puis là, mais par exemple, là, j'écoutais la radio, et puis là, j'étais vraiment comme, OK, là, c'est vraiment sérieux, puis j'ai commencé à angoisser dans mon auto. Je commençais à avoir peur, j'étais même attristé de voir que okay, notre vie était vraiment en train de changer. Puis dans ma tête, il y a toutes sortes de choses, peut-être rationnelles ou pas rationnelles, en tout cas, que je trouvais à ce moment-là, qui se disaient comme, OK, comme combien de temps ça peut durer cette affaire-là, quel mal pourrait-il nous arriver. Puis je me suis mis un petit peu à angoisser, à être triste de la situation, puis à réaliser que, ça va vraiment mal, ou ça pourrait aller vraiment mal. Et c'est drôle, à ce moment-là, le message « ça va bien aller » me faisait pas... À ce moment-là, ce message-là me faisait pas du bien. Et j'irais même jusqu'à vous dire que à ce moment-là, honnêtement, c'est comme si j'avais pas d'espoir. Je réfléchissais et je vivais ça comme un gars qui avait aucun espoir. Et c'est vraiment spécial parce qu'on va voir aujourd'hui que c'est pas vrai. Et c'est pas vrai que je pense que j'ai aucun espoir dans la vie en ce moment, mais souvent dans nos vies, quand on vit des souffrances, quand on vit du doute, quand on vit des difficultés, on entend de l'information, on entend des messages et on laisse ces messages-là, on entend cette information-là dicter nos vies. Et certainement qu'on entend toutes sortes de messages. Dans ce cas-ci, ces jours-ci, on entend toutes sortes de messages concernant la COVID-19, puis c'est inquiétant. Et on peut écouter ces messages-là, les emmagasiner, puis même des fois les écouter un petit peu trop parce qu'on veut tout savoir qu'est-ce qui se passe, mais en réalité, on aimerait ça comme... Moi, en tout cas, j'aimerais ça comme pouvoir juste diminuer mon stress un peu. Puis là, je pense qu'en écoutant plus de nouvelles, il y a comme une bonne nouvelle qui va arriver, puis ça va diminuer le stress. Mais on a ces mauvais rationnels-là dans notre tête où est-ce qu'on se met à écouter l'information qu'on reçoit, puis elle affecte nos vies. Et quand on regarde les réseaux sociaux, quand on regarde les nouvelles, quand on regarde les séries, les films qu'on écoute, quand on va au supermarché, ouais, dans les centres d'achat par exemple, puis on voit les images, on voit que la société nous bombarde d'informations, de messages. Des messages qui, si on les écoute, vont nous dire si on est beau, si on est belle ou si on est laid. Des messages qui vont, si on les écoute, qui vont nous dire si on en vaut la peine, qui vont nous dicter c'est quoi la réussite, c'est quoi le succès. Qui vont nous dicter c'est quoi avoir de la valeur, être aimé. Et on va écouter ces messages-là et on risque, et bien souvent, même si on croit en Jésus, même si on sait que Jésus est là, mais à ces moments-là, quand on écoute cette information-là, on va se retrouver des fois sans espoir, puis comme même pris au dépourvu, on va laisser ces messages-là définir qui on est, définir notre identité. Et c'est vraiment important de réaliser ça. De réaliser puis de voir ce matin, ce qu'on veut voir, c'est que le message de l'Évangile a vraiment une réponse pour nos cœurs dans ces moments-là. Et c'est vraiment ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux est en train de dire. Peut-être que les situations sont différentes, peut-être que les messages sont différents, mais l'auteur aux Hébreux, Dieu amène cette lettre-là dans la Bible. Alors qu'on doute, alors qu'on n'est pas certain, alors qu'on se laisse attirer par d'autres chose. Il veut nous rappeler c'est quoi qui est le meilleur. C'est quoi qui est le meilleur message. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est qu'on doit, nous devons, c'est un impératif, c'est un avertissement que Dieu nous donne. Nous devons nous attacher au message de l'Évangile parce que Jésus règne. Nous devons nous attacher au message de l'Évangile parce que Jésus règne. Et le message va plus loin. Et c'est ce que j'aime de la Bible. La Bible est remplie de ces messages d'espoir, de ces messages rassurants, de ces messages qui nous rappellent la vérité, qui nous rappellent qui est Dieu, mais elle va toujours le faire. Et Dieu va toujours nous parler dans la réalité de nos vies. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est que nous devons nous attacher au message de l'Évangile parce que Jésus règne. Puis même si ça ne paraît pas en ce moment. parce que Jésus règne, même si ça paraît pas dans ta vie en ce moment. Jésus règne. Et j'aimerais ça que vous soyez convaincus de cela par la fin de ce message, que c'est la plus belle nouvelle qu'on peut avoir. Qu'on peut s'attacher au message de l'Évangile. Parce que Jésus règne, même si ça paraît pas en ce moment. Et j'aimerais ça qu'on puisse prendre le temps dans la prière. J'aimerais ça prier pour vous. Seigneur Jésus, je veux te prier que ce matin, tu puisses parler à mon cœur. Je te prie, Seigneur, que non pas moi, mais que toi, ta parole puisse parler au cœur de ceux qui écoutent ce message. On est plein de questionnements, plein d'inquiétudes, plein de doutes, plein d'informations qui nous bousculent dans nos têtes. Plein d'informations qui nous définissent, Seigneur. Mais ce n'est pas la meilleure information. Et j'aimerais que ce matin, on puisse regarder au meilleur message. Le meilleur message, Seigneur Jésus. Que toi, tu es le meilleur. Meilleur que tout. Plus grand que tout. Jésus, on te prie de mettre ce temps entre tes mains. Que tu puisses vraiment nous encourager ce matin. J'aimerais ça vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Hébreux. Le livre aux Hébreux, chapitre 2. Et on va lire en deux temps ce matin. On va commencer par lire au chapitre 2, les versets 1 à 4. C'est comme un message en deux temps. Chapitre 2, versets 1 à 4. « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu. » Je vais le répéter. « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu. » De peur d'être entraîné à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit, distribués conformément à sa volonté. Donc, tout d'abord, ce qu'on voit ce matin, c'est que le message de l'Évangile est meilleur que tous les systèmes qu'on peut bâtir dans nos vies. Le message de l'Évangile, c'est le meilleur message qui peut faire la différence dans nos vies, qui peut en fait transformer nos vies. Et c'est ce message-là qu'on doit recevoir. Jésus est le meilleur, c'est le thème de la lettre aux Hébreux. Puis en faisant cet argument que Jésus est meilleur que tout, on va voir que Jésus est meilleur que les anges. C'est ce qu'on a vu, c'est ce que le chapitre 1 et le chapitre 2 nous dit. Jésus est meilleur que les anges. Jésus, c'est le meilleur humain. On va voir ça ce matin. Donc, le meilleur médiateur. Jésus, c'est le meilleur prêtre, c'est le meilleur sacrifice. Bref, l'auteur cherche à rassurer les gens que Jésus est le meilleur. Vous croyez en Jésus, tenez ferme dans votre croyance en Jésus. Croyez ferme dans ce que vous avez cru, parce que malgré les circonstances de vos vies, vous croyez dans le bon message. Parce que Jésus est mort pour vos péchés. Jésus est celui qui vous a sauvé de vos péchés. Et Jésus est celui qui va vous donner ultimement cet espoir que les gens ont, qu'on va voir tantôt, mais Jésus va vous donner cette liberté que vous allez vivre avec lui pour l'éternité. Vous êtes peut-être dans des temps difficiles, mais Jésus est vraiment le meilleur. Comme les gens vivaient ces moments difficiles, que plusieurs chrétiens souffraient à cause de leur foi, il va les rassurer avec cet argument. Jésus, c'est la véritable solution. Jésus est meilleur que tout. Et ce qu'on voit ce matin, c'est qu'on a besoin constamment de se rappeler ce message-là. Constamment besoin de se rappeler. Ce n'est pas une information nouvelle qu'on a au début de notre vie chrétienne qui suffit pour nous garder aller pour le reste de nos vies sans qu'on s'en rappelle. Oh non, au contraire. Parce que ce que l'auteur nous dit ici, c'est restez attachés. Portez une ferme attention. Prenez au sérieux ce message-là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire de cette femme qui, un jour, va voir son mari, puis elle lui dit, « Mon amour, Je pense que tu m'aimes pas. » Son mari dit, « Mais voyons donc, pourquoi tu dis ça? C'est pas vrai. J'ai jamais dit ça. Je pense que tu m'aimes pas parce que tu me dis jamais que tu m'aimes. Tu m'as jamais dit que tu m'aimes. » Et là, le mari dit, « Non, mais non, attends, mon amour. » Elle dit, « J'aimerais te reprendre ici. C'est pas vrai. Je t'ai déjà dit que je t'aimais. Le jour qu'on s'est mariés, je t'ai fait mes vœux. Je t'ai promis que j'allais toujours t'aimer dans la maladie comme dans les bons jours, que j'allais être fidèle, que j'allais toujours prendre soin de toi. Puis je t'ai dit à ce moment-là que je t'aimais. Puis ça n'a jamais changé. Alors j'ai pas cru bon de te le rappeler ou de te le dire. » Et juste de dire cette histoire-là, on part tous à rire ou à dire « Ah oui, ça fait plein de fois que je l'entends. » Mais elle est drôle cette histoire-là parce que des fois, c'est comme, on pense « Ah ben tu m'as dit quelque chose, j'ai pas besoin. » L'information qu'on a dans la Bible ne sert pas juste à nous donner plus de connaissances ou plus à savoir plus de choses, mais elle sert souvent à nous rappeler ce à quoi on croit pour pouvoir obéir à Dieu et à la parole et rester fidèle à Dieu. Et c'est exactement ce que l'auteur est en train de dire ici. Tenez ferme, rappelez-vous, attachez-vous à ce message-là. Que vous avez cru aujourd'hui, qui vous fait douter, vous vous posez des questions. Non, attachez-vous à ce message-là. Et pour ceux qui ont du mal à croire en Jésus, qui se demandent si Jésus est vraiment la façon de vivre qui va changer leur vie, il va leur démontrer que Jésus est le meilleur. Puis l'auteur du livre fait la démonstration que Jésus est supérieur aux anges. C'était ça on avait au chapitre 1 qui s'en est, qui amène jusqu'ici. On voit au chapitre 2 qu'on va voir si je réalisais le verset 2. En effet, puisque ta parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, combien à plus forte raison, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Et ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de dire Jésus plus grand que les anges. Il va dire, si ce message-là reçu par les anges a eu l'effet de punir la désobéissance, a eu pour effet de châtier ceux qui ne croyaient pas. Si ce message-là envoyé par les anges, et ici on parle de la loi que Dieu a envoyée, si ce message-là envoyé par les anges était bon, maintenant je vous parle d'un plus grand message, et ce n'est pas les anges qui l'ont amené, parce que c'est Jésus lui-même qui est venu l'apporter. Mais donc ici, il parle, pour le peuple, quand on parle des anges, justement, parce que pour nous, peut-être les anges, c'est un peu mystique. Peut-être que toi, tu entends parler des anges, tu ne sais pas trop quoi en penser. Peut-être que tu écoutes ce message-là ce matin, tu explores la foi, puis les anges, tu ne crois pas trop à ça. Mais laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que les anges pouvaient signifier pour les gens de ce peuple-là quand ils entendaient ce message-là. Pour le peuple juif, c'était clair que les anges, c'était des êtres puissants qui pouvaient faire des merveilles, qui étaient pas mal plus puissants et plus grands qu'eux-mêmes en tant qu'êtres humains, que Dieu a utilisé dans leur histoire. Ils ont plein d'histoires qui peuvent raconter que Dieu a visité, par des anges, a visité des êtres humains. Donc pour le peuple, c'était pas comme, c'est quoi des anges? Pourquoi tu nous parles des anges? Non, il est en train de dire, ces êtres-là qui sont grands, qui sont puissants, qui ont fait des choses importantes, puis une des choses importantes que les anges ont fait, c'est qu'ils ont apporté la loi de Dieu à son peuple. Le peuple était convaincu de ça. Alors, pour le peuple, quand ici l'auteur dit les anges, pour eux, c'est comme, OK, ça capte leur attention. Et surtout, si les gens doutaient de revenir à leurs anciennes façons de vivre, c'est comme les anges, c'est eux qui ont porté ce message-là, qui ont porté la loi. Et ce que la Bible va nous dire, c'est que la loi que les anges ont apportée va servir à nous condamner, mais elle ne peut pas pardonner nos péchés. C'était un message important, mais ce n'était pas le message complet de l'Évangile révélé en Jésus. Alors, l'auteur va débuter avec son exposé sur la suprématie de Jésus en débutant par la suprématie de Jésus sur les anges. Ça va capter l'attention tout de suite des lecteurs. Si le peuple a reçu un message important de la part des anges, alors le peuple va recevoir un message important. Et ce que l'auteur va dire, c'est « Mais maintenant, écoutez le message. C'est pas les anges. C'est pas les anges qui vous ont envoyé ce message-là. C'est Dieu lui-même fait homme par son Fils qui est venu sur cette terre. » C'est tellement important qu'on a cet avertissement-là. Attachez-vous fortement au message que vous avez reçu. Portez une grande attention à ce message. de peur d'être entraîné à la dérive. Et ici, on peut lire au verset 1, ça dit pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu de peur d'être entraîné à notre perte. Mais cette image-là d'être entraîné à notre perte, c'est aussi cette image d'être entraîné à la dérive. Et puis, il y a quelques années, mon épouse et moi, on est allés dans le sud pour notre voyage de noces. C'était la première fois que j'allais dans le sud. C'était la première fois que je prenais l'avion. Puis je me souviens, j'étais au-dessus dans l'avion, puis là, je voyais la mer. J'étais comme, oh, c'est vraiment vaste cette affaire-là. C'est gros. On voit pas la terre nulle part. Là, je m'imaginais être comme... Déjà, l'avion était petit dans tout cet amas d'océan-là, mais là, je me disais, si moi, j'étais là, je m'imaginais là, je me disais, t'es ça, t'es perdu, t'es petit, t'es rien. Et puis là, on arrive en République dominicaine, à notre hôtel, puis une des journées, on est allé faire du catamaran. Mais pas le gros bateau, mais un petit catamaran double, puis t'avais besoin de prendre un petit cours de quelques minutes, il y a quelqu'un qui montrait comment naviguer, et puis après ça, tu pouvais partir, comme je pense j'avais loué pendant une heure, puis là, tu pars pendant cette heure-là. Et puis je me souviens que... À ce moment-là, j'étais en train de naviguer. Et puis, il y avait comme... J'ai tout de suite, tu sais, trouvé des repères. Premièrement, quand on est parti, j'ai regardé. Je disais, OK, il faut toujours que je vois cette chose-là. Peut-être, je sais pas moi, un arbre que j'avais spoté ou un restaurant ou quelque chose sur le bord de l'hôtel. Mais il faut toujours que je vois ça. Puis en plus, l'autre chose, c'est que de l'autre côté, il y avait un bateau qui était en naufrage. Puis c'était comme un ancien bateau tout rouillé qui était dans la mer. Et puis, moi, je me disais, il faut toujours que je navigue entre la plage puis le bateau. Puis, je ne vois pas plus loin que ça. Donc, je m'étais fait des points de repère. Pourquoi je me suis fait des points de repère? Parce que j'avais peur que si, mettons, je partais en mer puis qu'à un moment donné, je ne savais plus où j'étais, bien, j'allais comme tu peux naviguer. Puis là, tout d'un coup, tu t'en rends pas compte, mais tu pars à la dérive puis tu ne sais pas où est-ce que tu es. Puis, pour les navigateurs qui partent en mer, c'est la même chose. Bon, aujourd'hui, il y a les images satellites, il y a tout, mais on a besoin d'être dirigé. Et à l'époque, quand on naviguait avec des outils manuels, puis il fallait souvent regarder si on allait toujours dans la bonne direction, parce que si on était à la dérive juste un tout petit peu, on pouvait partir tranquillement, et puis après quelques heures, être perdu complètement, puis avoir perdu la destination où est-ce qu'on s'en allait. Donc ici, quand l'auteur il parle de peur de vous entraîner à votre perte, il est vraiment en train de dire, attachez-vous à ce message-là. Ce message-là, c'est votre ancre. C'est votre voile, c'est votre direction, mais c'est aussi votre ancre. Puis c'est lui qui va vous donner, qui va vous ancrer dans cette vie. Puis si vous ne vous attachez pas, vous allez partir à la dérive, ça va vous entraîner à votre perte. Puis détrompez-vous si le message qui était plus petit a apporté des conséquences pour la désobéissance, la conséquence pour la désobéissance du message de l'Évangile va être encore plus grande. Et on sait, la Bible nous dit que la conséquence du péché, c'est la mort. Et de rejeter le message de l'Évangile apporte à la mort et être perdu pour l'éternité sans Dieu. Donc, voici l'avertissement. Restons attachés à l'Évangile. Nos circonstances de la vie peuvent nous apporter à douter, à remettre en question. Puis le doute, c'est vraiment fort. Parfois, on se met à se poser des questions, à douter. On remet peut-être même des fois en question nos croyances. J'ai vu cette histoire de cet homme qui croit fortement en Dieu. Il aimait Dieu, il parlait de Dieu aux gens, il avait la joie de Dieu en lui. Il voulait toujours encourager les gens, consoler les gens avec la parole. Si les gens vivaient quelque chose de difficile, il va les encourager avec la parole. Et à un moment donné, cet homme-là vit une tragédie. Sa femme est impliquée dans un accident d'auto et est entre la vie et la mort. Et la première réaction qu'on voit dans ce moment-là d'un homme qui est ancré dans la parole de Dieu, qui est ancré dans sa foi en Dieu, il va poser la question, mais à quoi sert ma foi? Puis il va crier à Dieu de cette manière-là, puis il se met à douter. Et c'est pour ça qu'on a constamment besoin de se rappeler avec l'Évangile, avec la parole de Dieu, laisser Dieu parler à nos cœurs, puis prendre soin de nous. On n'aime pas souffrir, on n'aime pas douter. J'aimerais vous dire que, comme l'autre fois dans l'auto, quand que, je me suis mis à me poser des questions, souvent, quand que la souffrance arrive, quand on entend des messages qui sont difficiles, qui sont stressants, qui apportent de l'angoisse, de l'anxiété, bien, c'est parce qu'à ce moment-là, on laisse le doute rentrer en nous. À ce moment-là, on oublie l'espoir qu'on a. Puis c'est pas pour nous culpabiliser que je dis ça, c'est pour nous dire qu'on est comme ça, on est normal, on est des êtres humains, puis c'est pour ça qu'on a constamment besoin de nous rappeler le message de l'Évangile que Jésus nous a donné. Jésus est mort pour nous. Jésus nous a donné la vie. Jésus nous a transformés. Jésus nous a donné un espoir qui est plus grand que la circonstance actuelle. Et c'est de Jésus qu'on a besoin dans les moments de doute, dans les moments de souffrance. Et c'est pour cette raison qu'on doit s'attacher constamment au message. Regardons ce que Deutéronome 6, les versets 4 à 9 nous disent. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras. » Et quand tu te lèveras, tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur la porte de tes villes. Voici l'encouragement pour le peuple d'Israël. Cette relation-là que tu as avec Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Les commandements que Dieu t'aime, ce que Dieu te donne parce qu'il t'aime, tu vas les mémoriser, tu vas les écrire partout, tu vas t'en souvenir, tu vas entretenir cette relation avec Jésus, tu vas garder ce message que Jésus t'a donné. Et c'est ce que Dieu nous montre. Et voici quatre façons qu'ici, la supériorité du message de l'Évangile est démontrée. On l'a vu, c'est Jésus lui-même qui est venu, c'est la raison numéro un. Jésus lui-même est venu pour nous donner ce message-là. Mais on voit aussi que ce message-là a été confirmé par des témoins. Vous avez entendu parler de ce qui s'est passé. Il y a des gens que vous connaissez qui vous l'ont dit. Et ces témoignages qu'on peut voir dans nos vies, peut-être que nous, on n'a pas 2000 ans plus tard, on ne peut pas parler avec Pierre ou Jean ou Jacques, mais il y a toutes sortes de témoignages de l'œuvre de Dieu dans la vie des gens qu'on entend tout le temps. De ces personnes-là qui ont passé au travers des moments difficiles, de ces personnes-là qui ont apporté l'Évangile à des endroits difficiles, de ce que Dieu a fait à d'autres moments. Ces témoignages qui confirment l'œuvre de Dieu dans la vie des gens. Et ce qu'on voit aussi, c'est que Dieu lui-même va témoigner de sa puissance, de la grandeur de ce message-là. Et dans le Nouveau Testament, on voit plein d'endroits où est-ce que quand les gens annonçaient l'Évangile, quand les gens parlaient de Jésus, ce message-là était accompagné de miracles, de puissance, de guérison. Pourquoi? Pour démontrer que ce message-là, ce n'est pas un message humain. Démontrer que ce n'est pas juste quelqu'un qui a pensé à une bonne idée, mais c'est vraiment le Dieu de l'univers qui dit « Regardez ce que je suis venu faire pour vous. Je suis venu vous donner la vie. Je suis venu vous régler votre plus gros problème, qui est votre rébellion avec Dieu, qui est le fait que vous avez abandonné Dieu. Puis je vous aime, je vous offre le pardon par la mort de mon fils à la croix, accompagné avec des miracles. » Et la quatrième façon qu'on voit, c'est que Dieu a distribué des dons. Les dons de l'Esprit. Puis aujourd'hui, Dieu continue à distribuer ses dons pour qu'on puisse témoigner de qui est Jésus, pour qu'on puisse, ensemble, l'Église, pouvoir bénéficier des dons des uns des autres, pour pouvoir voir la personne de Jésus, pour pouvoir goûter comment Dieu est bon, comment Dieu prend soin de son Église, comment Dieu prend soin de ses enfants. Ce message-là, c'est un message puissant que Dieu veut qu'on goûte aujourd'hui. Qu'on puisse s'y attacher. On n'est pas juif et pour nous, peut-être que c'est pas notre tentation, c'est pas de retourner à la loi ou de se demander si le message des anges est meilleur que le message de Jésus. Mais comme l'argument est fait que Jésus est meilleur que tout, et c'est ce que l'auteur veut faire ici, on peut parfois être tenté de croire à d'autres messages qu'on entend. Et j'en ai nommé trois que je veux vous partager vite, mais ce premier message qui est l'optimisme. Ça va bien aller. On entend ça en ce moment. Ça va bien aller. Et je suis comme tu sais, on voit ce mouvement de personnes qui ont fait des arcs-en-ciel, qui ont écrit sur les fenêtres, ça va bien aller. On a fait ça, nous aussi, en famille. Parce que c'est notre désir que ça aille mieux. C'est ce désir qu'on a que ça aille mieux. Mais quand que je parle de l'optimiste qui se dit ça va bien aller tout le temps, l'optimiste ne peut pas se permettre de croire que ça peut mal aller. Parce que l'optimiste va juste croire que ça va bien aller. Mais il n'y a pas de réponse quand ça commence à mal aller. Et je pense que quand j'étais dans la voiture cette journée-là et que j'entendais tous ces messages-là, j'agissais comme un optimiste qui essayait de se faire croire que ça allait bien aller, mais que là, j'étais devant l'évidence que ça ne va pas nécessairement bien aller. Et je me suis mis à capoter, à paniquer, parce que mon optimisme ne donnait plus de réponse à mes questions. L'humanisme. Je peux y arriver moi-même. J'ai la force intérieure pour y arriver. Je suis capable. Je peux le faire. On entend ça, et ça, c'est vraiment le message qui nous est bombardé dans la société, qui nous dit que nous sommes capables d'y arriver. Jusqu'à temps qu'on vive des échecs. Jusqu'à temps qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Jusqu'à temps que tout va bien à l'intérieur de nous-mêmes par nos propres forces, et que là, une force qu'on peut pas contrôler, genre un virus, une pandémie mondiale vient puis nous force à arrêter de travailler, à perdre beaucoup d'argent, à perdre peut-être les objectifs qu'on s'était fixés, puis on se rend compte que là, il y a plus qu'un que nous, puis on contrôle pas toutes les choses, puis là, on n'a pas de réponse à ça. Et le troisième, c'est l'individualisme. Je peux y arriver par moi-même aux dépens des autres. Et encore une fois, jusqu'à temps qu'on se rend compte qu'on a besoin des autres, puis peut-être qu'on a blessé trop de gens dans nos vies, ou que les gens ne sont plus autour de nous, mais que là, on se dit, ça fait plus de sens avec ma façon de voir les choses, je ne peux pas y arriver toute seule. Et je pense qu'en ce moment, c'est une des choses qu'on est en train de vivre avec la situation de la COVID-19, comment est-ce que les gens sentent le besoin d'être ensemble plus que jamais, alors que quand on avait la liberté d'être ensemble, on visait le gain personnel. Et ça, c'est dans nos cœurs. Et ça, ça fait passer. C'est des messages qu'on entend constamment. Le problème, c'est que ces systèmes n'ont pas de réponse quand ça va mal. Ils nous offrent aucun espoir, et surtout, ils n'ont pas la capacité de nous délivrer de notre plus grand problème, qui est le péché. Ces systèmes-là n'ont pas la capacité de nous délivrer de notre plus grand problème, qui est le péché. Alors, c'est pour ça qu'on est appelé à rester accroché. Attachons-nous, ancrons-nous au message de l'Évangile. Parce que Jésus vous dit que quand ça ne va pas bien, c'est ce qu'on va voir, mais il a fait ce qu'il avait à faire pour qu'un jour ça va toujours bien aller. Jésus dit non, tu n'es pas capable par toi-même, mais moi j'ai fait le travail pour toi. Jésus va dire oui, tu as besoin des autres, et moi je vais te donner une église, une communauté que je me suis fait moi-même, qu'on appelle ma famille. Jésus va répondre à ces messages-là, comment est-ce que lui, il est plus grand que ces messages-là. Ce message apporté par Dieu. Et j'aimerais ça lire avec vous les versets 5 à 9. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Écoutez, maintenant pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tous les êtres humains. Et voici l'espoir que Dieu nous donne. Jésus est venu faire ce que nous ne pouvions pas faire. C'est ça qu'il est en train de dire ici. On voit dans ce passage une citation du psaume 8, un psaume fantastique qui parle, qui pointe vers Jésus, et qu'on sait, entre autres grâce à Hébreux, que ce psaume nous pointe vers Jésus. Mais une des choses que le psalmiste va faire, c'est que quand il considère l'homme, l'être humain, il comprend, quand il regarde toute la création, il est émerveillé de la valeur de l'être humain. Je regarde toute la beauté de la création, Seigneur, puis je remarque à quel point on est précieux. Je remarque à quel point tu as fait l'homme juste un petit peu inférieur à Dieu. On voit que Dieu nous a créés à son image. Dieu a créé l'homme et la femme, les êtres humains, de façon avoir le plus de valeur dans toute sa création? Est-ce que vous pouvez croire que tout ce que Dieu a fait qui est beau, qui est bon, quand on regarde toute la création, aux yeux de Dieu, nous sommes ce qu'il a de plus précieux? Et c'est en regardant ça que le psalmiste David est comme il est émerveillé devant cette réalité. Et ce qu'il va dire aussi, c'est qu'il va revenir à la Genèse en disant que tout a été mis sous l'autorité de l'homme. Et c'est vraiment ce qu'on voit dans la Genèse. Au début, Dieu va faire le monde, Dieu va faire l'homme et la femme à son image, et il va donner aux êtres humains ce mandat-là de prendre soin du jardin, de le cultiver. Ils deviennent comme les rois puis les reines de cette terre à la place de Dieu. Ils vont représenter Dieu, ils vont diriger. Et s'ils dirigent en obéissant à Dieu, s'ils dirigent en faisant la volonté de Dieu, tout va bien aller, ils vont être heureux pour toujours et la terre va continuer de prospérer puis il n'y aura jamais de mal sur la terre. Mais si on se parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'on sait aussi que Adam et Ève, les premiers êtres humains, ont désobéi à Dieu. Ils se sont détournés de Dieu, ils ont dit non à Dieu. En fait, quand ils ont pris le fruit que Dieu leur avait défendu de manger, il leur avait dit que le jour où vous allez manger de cette arbre-là, vous allez mourir. Quand ils ont pris ce fruit-là, ils ont dit à Dieu, on choisit que nous, on sait ce qui est bon et toi, tu ne sais pas ce qui est bon pour nous. Et ce jour-là, l'humanité a échoué à diriger pour Dieu, à être en relation avec Dieu. Et ce qu'on voit dans ce passage de la lettre aux Hébreux, c'est que Jésus est venu comme un être humain. Et c'est le même, c'est le psaume 8 qui est relu ici pour dire, il est venu, il s'est fait inférieur aux anges, il est venu sur cette terre pour un peu de temps, il a souffert, et Dieu lui a donné les dominations, il a donné toute autorité sur toute chose. Et ce qu'on sait, c'est que nous avons brisé la relation avec Dieu, donc nous ne pouvons pas avoir une relation avec Dieu. Par nos propres forces, on ne peut pas être en relation avec Dieu parce qu'on a brisé cette relation-là, parce qu'on a refusé de diriger en harmonie avec Dieu. Mais Dieu, par amour pour nous, va dire, je vais vous envoyer mon Fils, qui va se faire homme, qui va s'identifier à vous, qui va faire partie de l'humanité. Et Jésus était 100% homme, il a vécu comme un homme, il a souffert comme un homme, il a vécu ce que les hommes, les êtres humains vivent, il a goûté à cette humanité, mais Jésus n'a jamais désobéi à son Père. Jésus a vécu une vie parfaite sur la terre qui l'a amené jusqu'à la mort sur la croix. Et il s'est humilié pour un peu de temps, il s'est abaissé, il a souffert et Dieu l'a élevé et lui a donné l'autorité sur toute chose. Et grâce à l'œuvre de Jésus, à la croix, grâce à la vie que Jésus a menée sur cette terre, nous pouvons à nouveau bénéficier d'une relation avec Dieu. Qu'on devait bénéficier pour l'éternité dans le jardin d'Éden, qu'on a perdu et que c'est pour ça que ça va si mal aujourd'hui. Mais Dieu est venu sur cette terre, fait homme. Il a pris notre place et il va régner pour toujours. Et c'est cette vérité-là, c'est cet espoir-là. Oui, ça va mal aujourd'hui, tu peux vivre des difficultés, mais Jésus, le meilleur humain, qui a vécu une vie d'obéissance complète et qui, à la croix, il a pris notre désobéissance. Il nous a pardonné nos péchés, il nous a donné sa vie parfaite. Il n'y a aucun autre message auquel on peut s'attacher qui va nous sauver, qui va nous donner ce qu'on veut vraiment. Il n'y a pas de plus grand. Jésus est le plus grand. Jésus règne. On peut déclarer que Jésus règne, même si ça ne paraît pas aujourd'hui. Jésus nous donne cet espoir-là, cet espoir qui nous permet de dire « ça va bien aller » parce qu'on sait que le meilleur est à venir. Et cet espoir-là nous donne aujourd'hui une paix. Cet espoir-là peut te donner aujourd'hui une assurance dans tes doutes. Cet espoir-là peut te donner une joie que tu ne comprends pas. Cet espoir-là me permet, moi, de fermer la radio et de dire « Seigneur, je te demande pardon parce qu'à l'instant même, j'ai manqué de foi en toi ». J'ai été inquiet parce que je n'ai pas regardé, je ne me suis pas rappelé ce que tu avais fait pour moi. Mais merci Jésus, parce que dans ta grâce, tu es mort pour ça. Et ta vie complète d'obéissance me permet de revenir à toi et te dire, Seigneur Jésus, tu es au contrôle. Apprends-moi à vivre au jour le jour. Malgré qu'on continue de lutter avec le péché dans nos vies, malgré qu'on continue à lutter avec la souffrance, peut-être avec des dépendances, Jésus, cet espoir-là qui veut te rappeler Attache-toi à moi. Attache-toi à mon message parce que moi, je règne. Ça paraîtrait peut-être pas toujours aujourd'hui, mais un jour, je vais régner pour l'éternité puis il n'y en aura plus jamais de ça. Il n'y en aura plus jamais. Pour les amateurs de Avengers, des films de super-héros, vous connaissez le film Captain America Civil War. Et dans ce film-là, ce qui est intéressant, c'est que la bataille, entre autres, va se passer entre les Avengers, entre les gentils. En passant, quand tu regardes ça avec ton enfant, essaie d'expliquer pourquoi que les gentils se chicanent. Puis souvent, dans les films, c'est difficile d'expliquer qui est vraiment le méchant et qui est vraiment le gentil. Mais là, c'était vraiment impossible. Mais bref, l'histoire, la promotion qui s'est faite autour du film, quand que le film quand ils ont voulu comme lancer le film, c'était « T'es dans quelle équipe? » Est-ce que tu vas être dans l'équipe de Captain America puis toutes les autres qui vont se battre avec lui? Ou est-ce que tu es dans le film de Iron Man puis toutes les autres qui vont se battre avec lui? Puis bon, OK, on a peut-être déjà des préférences d'emblée, mais une des questions, c'était « Ben, c'est qui va gagner? » C'est qui va se tenir debout à la fin? Donc, le débat, c'était, ben moi, je pense que Captain America, avec son équipe, sont plus forts. Ah non, non, Iron Man, avec son équipe, là, il y a Spider-Man qui s'est joint à lui, puis eux sont vraiment plus forts. Puis, ceux que tu crois qui sont les plus forts, tu vas te ranger derrière eux parce que tu dis, à la fin, c'est avec eux que je vais gagner. À la fin, c'est eux qui vont gagner, donc ça, c'est mon équipe parce que j'aime pas ça perdre. Mais quand je pense à cette phrase de Jésus qui dit que Jésus règne, même si ça ne paraît pas en ce moment, qu'est-ce qui est un espoir là-dedans? C'est que peu importe les espoirs qu'on se met dans nos vies pour avoir ce qu'on veut, peu importe les messages que tu entends, j'aimerais te dire ce matin que le message de l'Évangile, Jésus qui est mort à la croix, qui a vaincu la mort, il a déjà vaincu la mort, il a déjà gagné, qui nous amène cet espoir de la vie éternelle, ce message nous rassure puis nous assure qu'à la fin, c'est Jésus qui va être debout. À la fin, c'est Jésus qui a gagné. Puis moi, je veux me trouver dans son équipe et je veux le suivre, lui. Et c'est ça, cet espoir que Dieu nous donne, que Jésus est le meilleur. Et dans ma vie, j'ai jamais été autant encouragé puis autant reconnaissant de connaître Jésus. Je vais être très franc avec vous. Parce que je vois que nos certitudes ou que nos difficultés, que les choses qu'on utilisait peut-être pour nous rendre, pour nous donner une illusion de contrôle ou nous donner cette illusion de réussite ou cette illusion d'accomplissement ou de toutes ces choses qu'on recherche dans nos vies, de valeur. Toutes ces choses-là sont ébranlées en ce moment puis nous rendent incertains puis instables puis peut-être même très stressés puis angoissés. Mais vous savez quoi? Jésus nous rassure de sa vie. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous assure de la vie éternelle. Et honnêtement, en ce moment, malgré toutes les difficultés de solitude, les difficultés qu'on peut vivre, les doutes, Jésus nous donne cet espoir-là. Et je me réjouis de cet espoir-là. Je suis fier de cet espoir-là. Je suis content de partager cet espoir-là. Puis j'ai envie de partager cet espoir-là. Puis j'ai même le goût que mes voisins, puis les gens qu'on connaît, que les gens qui les Québécois puis les Québécoises qu'on connaît, puis même ceux qu'on ne connaît pas, je veux que les gens, que Gatineau puisse connaître le message de l'Évangile qui est le seul message d'espoir. Alors ce matin, ce que je veux nous encourager, c'est qu'on puisse s'attacher au message de l'Évangile. S'attacher au message de l'Évangile. Parce que Jésus règne. Jésus a vaincu la mort, Jésus règne. Même si ça ne paraît pas en ce moment, Jésus règne. Il est notre espoir. Soyez bénis, Église de Sentier. Bon dimanche.